la science CQFD, Natacha Triou.
Nos forêts d'aujourd'hui seront-elles adaptées au climat de demain ? Face à l'urgence climatique, doit-on planter dès maintenant des forêts qui pourront survivre au climat futur, plus chaud et plus sec ? Températures extrêmes, sécheresse, nous faisons déjà face aux conséquences du réchauffement climatique. En témoignent les incendies ravageurs dans les Landes l'an dernier. Contrairement aux réchauffements antérieurs, qui étaient lents sur des milliers d'années et qui laissaient les espèces migrer et s'adapter, le dérèglement actuel est beaucoup trop rapide pour permettre cette adaptation naturelle. Comment pouvons-nous venir en aide à nos systèmes forestiers ? Changement climatique, que faudrait-il faire ? Julia Lenoé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biochimiste des écosystèmes terrestres chargée de recherche à l'IRD. Laurent Augusto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE. Et avec nous, en duplex depuis Amiens, Jonathan Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en écologie au CNRS. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Comme chaque jour, vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur notre fil Twitter en vous abonnant à notre compte @sciencesqfd. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de comment aider ces écosystèmes à s'adapter à la crise environnementale. Quelle sylviculture pour demain? Et quels sont les futurs possibles pour nos forêts? Parce que l'histoire des forêts françaises continue de s'écrire aujourd'hui, on remonte un peu en arrière avec notre archive du jour, une archive qui grisille.
La France, pays harmonieux entre tous, possède un domaine forestier qui atténue avec bonheur les écarts de son relief. En effet, les pentes abruptes de ces montagnes sont très souvent parées de magnifiques futaies de résineux ou de hêtres, alors que ces plateaux et ces collines arides sont couverts de vastes forêts feuillues et que la monotonie de ces plaines est égayée par de nombreux boqueteaux. Tous ces bois sont les vestiges importants de l'immense forêt qui couvrait autrefois notre territoire et que les moines et sarteurs avaient ouverte largement pour permettre à l'agriculture de prospérer. Ils avaient accompli cette œuvre avec modération et intelligence, car le cinquième de notre pays est encore couvert de forêts. Dès la fin du XVIIe siècle, Colbert avait compris l'intérêt de la mise en valeur de notre patrimoine forestier. Le poète La Fontaine fut un des premiers forestiers français. C'est pourquoi la France fut un des premiers pays où la sylviculture prit son développement. Notre école forestière de Nancy vient de former sa 121e promotion. Elle a permis par son rayonnement de vulgariser dans le monde entier sa technique grâce aux stages qui effectuent des forestiers de presque tous les pays. Cette technique forestière reflète le génie français fait d'harmonie et de bon sens. Elle se singularise surtout des autres techniques par le souci de ne pas faire violence à la nature, mais au contraire de suivre les indications qu'elle donne aux forestiers clairvoyants.
Voilà notre archive de 1948 avec Monsieur Lebrun. Jonathan Lenoir, aujourd'hui, qu'en est-il de ce patrimoine forestier français ?
Eh ben, il est effectivement bien impacté et mis à mal un petit peu par le réchauffement climatique et les extrêmes climatiques qui sont de plus en plus fréquents. Ça, c'est une des menaces qui pèsent beaucoup sur le patrimoine actuel.
Julia Lenoé, pour réagir vous aussi à cette archive et sur l'état de santé de nos forêts en France.
Moi déjà, j'aimerais réagir à la présentation historique qui est faite des forêts par cette archive. C'est un peu amusant, ça ressemble un peu à un document de propagande en fait, presque cet extrême 1948, puisque en fait, il y a effectivement eu une politique forestière très forte en France qui date en fait de 1827 avec la mise en œuvre du code forestier. Sauf que cette mise en œuvre du code forestier, elle va avoir pour vocation et pour effet d'accroître les surfaces forestières, mais aussi dans gérer les récoltes, dans gérer la production à des fins souvent industrielles, ce qui n'était alors pas tout à fait le cas avant. Et donc, je pense qu'il faut quand même garder ça à l'esprit. Et en particulier, ces codes forestiers, ces réformes, elles vont permettre d'augmenter les surfaces des forêts, mais elles vont aussi se faire parfois au détriment des populations rurales pour lesquelles la forêt est un moyen de subsistance et où il y avait une forte intégration entre les activités agricoles et les activités sylvicoles. C'est ce qu'ont montré notamment les historiens Raphaël Larrère et Olivier Nougared auxquels je peux renvoyer les auditeurs.
Laurent Augusto, vous aussi une réaction à cette archive ?
Oui, oui, alors peut-être en complément de ce qui a été dit, c'est-à-dire que sur le temps long, au milieu du 19e siècle, on est vraiment à un creux forestier, c'est-à-dire que la surface forestière n'aura jamais été aussi faible en France. Et on commence à voir des effets vraiment délétères, c'est-à-dire le fait d'avoir déboisé le flanc des montagnes, on commence à voir des phénomènes d'érosion et donc des coulées de boue, donc des villages impactés. Et puis même, on se rend compte que les forêts, c'est pas une ressource infinie, donc il y a vraiment cette volonté politique, alors comme le disait ma collègue, avec des arrière-pensées de production, mais aussi de restabilisation des pentes. Et puis, il y avait aussi une idée qui date un peu, qui est qu'on va mettre en valeur des terres qui étaient incultes. Bon, les populations locales savaient les mettre en valeur, mais pas d'une façon moderne comme on l'envisageait au 19e siècle. Et juste pour finir, si on compare la surface forestière actuelle à ce qui a été au milieu du 19e, on a doublé. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, quand vous baladez en forêt, vous avez une chance sur deux d'être dans une forêt, entre guillemets, jeune, parce qu'elle a moins de 150, 170 ans.
Voilà, mais on va voir que tout de suite, les problématiques actuelles ne sont plus les mêmes. Laurent Augusto, on peut commencer par ce constat de départ. Nos forêts sont donc en péril. De quelle façon sont-elles déjà impactées par le réchauffement climatique en France ?
Alors, ce qui vient tout de suite à l'esprit en termes de réchauffement climatique, si on pense à l'été, donc ce sont les sécheresses, les canicules et même les incendies. Alors, le réchauffement climatique, il se limite pas à l'été. On peut avoir aussi des phénomènes de tempêtes catastrophiques au moment de l'hiver. Alors, pendant un temps, on disait que c'est la tempête du siècle, mais quand la tempête du siècle se répète un peu trop souvent, c'est plus la tempête du siècle. Et il y a comme ça d'autres risques climatiques. Mais en fait, les spécialistes, ils vont au-delà du changement climatique, ils parlent de changements globaux, parce que ça se limite pas au climat. C'est-à-dire qu'avec le commerce mondialisé, on échange à tour de bras beaucoup de choses. Et des fois, sans le vouloir, on échange aussi des pathogènes, des plantes qui se révèlent invasives. Et c'est comme ça que en Europe, mais aussi dans d'autres continents, on a vu arriver de plus en plus des nouvelles maladies qui peuvent s'attaquer une espèce et voire même pratiquement l'éradiquer. Donc il y a des cas connus comme ça. Ou alors avec des produits, c'est-à-dire dans les produits, donc par exemple si on fait circuler du bois, dans le bois vous pouvez avoir de loger des parasites qui vont se mettre à s'attaquer de manière incontrôlée les arbres qui sont chez nous. Puis on a de la pollution et tout un tas d'autres choses. En fait on en a beaucoup et un problème qu'il y a c'est qu'ils peuvent s'additionner. C'est-à-dire que par exemple si vous avez une sécheresse plus une canicule, des arbres qui auraient survécu à la sécheresse, si la canicule vient par-dessus, ça leur fait passer l'arme à gauche. Si vous avez une tempête qui abat beaucoup d'arbres, ça va induire une pullulation d'insectes qui se nourrissent de ce bois et qui vont se mettre à s'attaquer à des arbres qui, eux, sont encore vivants. Donc on est dans un phénomène de multirisques qui s'additionnent, se succèdent, et c'est ça l'enjeu.
Jonathan Lenoir, pour compléter sur ces risques climatiques, ces multirisques qui pèsent sur nos forêts.
Oui, je pense que là, la plupart des risques ont été évoqués, et c'est vrai que c'est vraiment des changements globaux aujourd'hui, les espèces finalement exotiques aussi qui viennent et qui sont apportées par le transport et par les échanges commerciaux. Voilà, il y a des exemples aujourd'hui qui ont eu des impacts assez majeurs sur la production ou sur la mortalité de certaines essences forestières. Par exemple, le frêne dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France a été très impacté par la calarose du frêne, qui est une maladie qui s'est propagée suite à un pathogène, un champignon venu d'Asie, et qui, depuis 2008, s'est propagé rapidement sur le territoire français, depuis le Grand Est, et a impacté énormément cette essence qui n'est pas du tout, qui est très naïve à ce pathogène venu d'un autre continent.
Selon l'Office national des forêts, l'ONF, la mortalité des arbres a augmenté de 54% en une décennie, en raison donc des sécheresses, mais aussi de la multiplication des attaques de ravageurs, insectes, champignons. Julia Henault, on peut poursuivre et remettre aussi en perspective le rôle fondamental des forêts en général et ses nombreux services écosystémiques.
Il y a un certain nombre de services écosystémiques qui ont déjà été évoqués, donc le rôle de réservoir de biodiversité, de rafraîchissement local, puisque les forêts évaporent énormément d'eau, ce qui va permettre de refroidir localement le climat en augmentant l'humidité de l'atmosphère. Mais un service écosystémique aussi très important des forêts, c'est celui d'atténuation du changement climatique, puisque les forêts peuvent jouer un rôle de puits de carbone carbone ou de sources de carbone, en fait, selon comment elles vont réagir au changement climatique et comment elles vont être gérées. Donc peut-être un mot sur ce que ça veut dire source ou puits de carbone. Donc on dit qu'une forêt, elle est un puits de carbone lorsque, eh bien, la croissance des forêts et l'apport de litière au sol sont plus importants que la respiration du sol et des plantes. Donc c'est-à-dire que le bilan entre l'absorption du dioxyde de carbone par la photosynthèse et les sorties par la respiration, eh bien, ce bilan, il est dans le sens d'une absorption du dioxyde de carbone par les forêts. Donc aujourd'hui, ce rôle de puits de carbone, y compense à peu près 20% des émissions de carbone liées à la combustion d'énergie fossile. Donc ça, c'est très important. Donc il faut bien se rendre compte que sans ce rôle de puits de carbone par les forêts, eh bien, il y aurait 20% de dioxyde de carbone atmosphérique en plus dans l'atmosphère. Néanmoins, il faudrait aussi ajouter à ça que les forêts peuvent aussi être une source de carbone. Donc voilà, soit quand elles sont dégradées, soit parce qu'il y a une exploitation trop intensive, mais aussi en fait le principal facteur d'émission de carbone par la forêt, c'est la déforestation. C'est le principal facteur et les émissions de carbone lié à la déforestation, elles sont de l'ordre de 13%, enfin entre 12 et 15% des émissions de carbone fossile. Et donc cet effet de puits que je viens de donner, c'est en retirant, c'est en enlevant les effets de la déforestation. Donc sans la déforestation, il pourrait y avoir à peu près 35% des émissions de carbone fossile qui seraient retirées simplement par le fonctionnement du puits de carbone des écosystèmes forestiers.
On peut, les forêts et les océans qui stockent la moitié des émissions de carbone. Laurent Augusto, on peut poursuivre encore là pour faire un petit point botanique sur la santé des arbres, pour bien comprendre comment ça fonctionne, comment ce réchauffement climatique impacte un arbre, puisque tout d'abord, les arbres respirent et font de la photosynthèse. Ce sont deux processus antagonistes.
Oui, alors ça avait déjà été abordé par Julia. Donc la photosynthèse, c'est vraiment le cœur de la vie sur Terre. Ça consiste en quoi ? Mais c'est la capacité qu'ont les plantes au niveau de leur feuillage à capter l'énergie du soleil et à utiliser cette énergie pour puiser le CO2 qu'il y a dans l'air, le faire rentrer dans leur organisme et le transformer en molécules utiles pour la plante. Donc au départ c'est des sucres. Donc en fait on passe d'une lumière qui est lumineuse à une énergie qui est lumineuse à une énergie qui est biologique. Et à partir de ça, l'arbre va pouvoir grandir et tout, quasiment la structure de l'arbre est faite de carbone. Donc un arbre, c'est essentiellement de l'eau et du carbone. Il y a des éléments nutritifs en plus, mais c'est vraiment les deux grands ingrédients. Et d'ailleurs, vous, moi, tous les êtres vivants, c'est essentiellement de l'eau et du carbone. Donc ça, c'est vraiment la photosynthèse. Donc on voit bien que c'est grâce à la lumière que les plantes vont puiser le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et en faire de la biomasse, de la matière vivante. Bien sûr, comme tous les organismes, comme aussi vous et moi, ils ont besoin de respirer dans le sens où les cellules ont une activité. Et en faisant ça, elles émettent du CO2. Et ça pourrait se compenser. Donc c'est ce qui avait été expliqué par Julia. Et donc dans une forêt qui est plutôt en bon état, donc qui continue de croître sans être trop affectée, le bilan entre ce qui rentre par la photosynthèse et ce qui ressort par la respiration est positif. Et peut-être juste pour compléter, ça c'est vraiment la partie visible de la forêt, c'est-à-dire que c'est le carbone qui est fixé dans les arbres. Mais en fait, l'histoire ne se termine pas là. Quand les feuilles à l'automne tombent, c'est toujours du carbone, elles vont s'accumuler au sol, elles vont commencer à se décomposer et elles vont enrichir le sol en humus, en matière organique. Ça ressemble un peu à du terreau, ça a une forme et une odeur particulière. Et dans les forêts françaises, elles sont d'autant plus un puits de carbone que la moitié du carbone des forêts est dans les sols et l'autre moitié à peu près dans la végétation et donc les arbres.
En cas de chaleur, Jonathan Lenoir, un arbre seul va avoir tendance à stopper sa photosynthèse pour éviter une embolie, c'est ça ?
Alors oui, si vraiment il y a des coups de chaud importants et on manque d'eau surtout, parce qu'en fait on parlait tout à l'heure de transpiration, c'est le phénomène principal qui va faire que le microclimat ou cette ambiance forestière que vous avez quand vous vous baladez en forêt en été qui fait plus frais, elle est liée en fait à la circulation de l'eau. Et l'eau, c'est le principal vecteur ici qui va permettre de rafraîchir les forêts. Et pour ça, il faut que les arbres puissent transpirer cette eau. Donc il faut de l'eau dans les sols, il faut de l'eau dans le système pour que ça fonctionne. Et en cas de manque d'eau dans les sols notamment, ou quand l'humidité atmosphérique est trop faible, vous allez avoir effectivement un mécanisme que la plupart des plantes utilisent, qui est la fermeture des stomates, qui sont ces petits pores dans les feuilles, pour justement stopper l'activité photosynthétique, stopper la transpiration et donc économiser de l'eau. Et en économisant de l'eau, cela évite effectivement que notamment des bulles d'air se forment dans les vaisseaux conducteurs de l'eau et de la sève, et entraîne ce qu'on appelle un phénomène d'embolie qui peut être létal pour un arbre en fait.
C'est comme si, en cas de sécheresse, c'est comme si un arbre avait des AVC. Donc le facteur le plus important, Julia Lenoué, le facteur le plus important pour les forêts, c'est la sécheresse.
C'est un des facteurs auxquels la forêt va être le plus sensible. En fait, pourquoi la sécheresse? Parce que on pourrait aussi penser à la température. Sauf que l'augmentation de la température peut avoir des effets positifs aussi, puisque l'augmentation de la température peut conduire à l'augmentation de la période de croissance des plantes et donc finalement à un peu plus de croissance des plantes. En fait, il faut se représenter le fonctionnement du métabolisme, donc de toutes les fonctions biologiques des plantes, comme étant lié comme étant sur une courbe d'optimum. Et en fait, dans un certain nombre de climats tempérés et boréaux, ce température optimum n'est pas encore atteinte. Donc parfois, l'augmentation de la température va aller dans le sens de l'optimum. Bon, alors après, passé un certain stade, l'augmentation de la température, elle va au contraire conduire à diminuer les fonctions du métabolisme des plantes. Mais en revanche, pour la sécheresse, à partir du moment où il y a sécheresse, eh bien voilà, c'est ce que vient de dire Jonathan juste avant moi, le risque d'embolie pour les plantes devient plus élevé, et donc c'est un facteur de mortalité important en zone, dans toutes les zones concernées.
À quoi pourraient ressembler nos forêts de demain? Quelles sont les difficultés auxquelles nous devons faire face en termes d'adaptation? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triot.
16h17 sur France Culture avec Julia Lenoué, Laurent Augusto et Jonathan Lenoir. Nous parlons des forêts françaises qui sont en péril face au réchauffement climatique. Nous venons de voir que la combinaison de la sécheresse et de la canicule peut faire plus facilement mourir une forêt. Laurent Augusto, qu'est-ce qu'une forêt plus résiliente?
Alors, la résilience, c'est quoi? C'est la capacité à passer au travers d'une perturbation, éventuellement à être affecté par cette perturbation et à revenir à un état, alors peut-être pas l'état antérieur, mais en tout cas un état de fonctionnement qui est satisfaisant. Et donc une forêt plus résiliente, si c'est un écosystème qui est pas trop géré par l'homme, c'est un écosystème qui va avoir les mécanismes en place déjà pour les ressources, pour affronter les perturbations. Alors, les mécanismes principaux, on les connaît. Hein. Souvent, c'est le fait d'avoir plus de biodiversité, c'est-à-dire quand vous avez plusieurs espèces, elles sont pas sensibles aux mêmes choses. Donc, lorsque la perturbation arrive, elle va peut-être affecter une partie des individus, mais les autres sont toujours là, et donc ça continue tant bien que mal à fonctionner. Et puis, il y a d'autres phénomènes comme la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est assez peu connue, c'est qu'au sein d'une espèce d'arbre, il y a énormément de diversité génétique. Les individus, entre eux, on a l'impression qu'un chêne et un autre de la même espèce, ce sont les mêmes. Pas du tout. Ils ont des patrimoines génétiques très différents. Donc, ils font des rejetons qui sont tous très différents. Et si il y a une perturbation, par exemple comme une sécheresse, eh bien, ceux qui ont finalement pas hérité du bon patrimoine, entre guillemets, pour ce climat en tout cas, ils vont passer l'arme à gauche et on va avoir une sélection naturelle qui peut se faire assez rapidement. Donc il y a différents processus pour les écosystèmes forestiers qui sont peu ou pas gérés, naturels, qui existent. Après, l'homme peut essayer de mettre sa patte, mais c'est peut-être une autre histoire.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Julia Lenoué, la biodiversité des forêts, ça c'est quelque chose de crucial pour faire face au réchauffement climatique. Plus l'écosystème est complexe, plus la résilience du système est importante.
Oui, tout à fait. En fait, la C'est ce que vient de dire mon collègue juste avant moi. Effectivement, la biodiversité, elle va permettre d'augmenter différentes fonctions biologiques. Plus il y a de diversité biologique, plus il y a de fonctions biologiques, donc d'adaptation à des contextes, voilà, de sécheresse, de température élevée, de limitation d'autres ressources. Et donc, à cet égard, la préservation de la biodiversité, c'est un objectif très important pour faire face au changement climatique. Et de ce point de vue-là, en fait, la meilleure manière de lutter contre la perte de la biodiversité, c'est de lutter contre la perte d'habitat, puisque c'est la perte d'habitat qui est la principale cause de la perte de biodiversité. Et donc, c'est d'abord et avant tout préserver les forêts qui existent, en fait. Et donc, dans le cas de la France, on a plutôt dans un cas de augmentation des surfaces forestières, mais il faut pas oublier qu'en fait la plupart des forêts les plus importantes sont en zone tropicale, et c'est là que la déforestation est la plus importante, donc c'est là que les risques de perte de biodiversité sont les plus forts. Et on pourrait penser que la France ou l'Union européenne n'a aucun rôle à jouer là-dedans, mais en vérité si, ne serait-ce que parce que la France importe aujourd'hui du bois. C'est 29 millions de mètres cubes de bois qui sont importés par la France aujourd'hui, donc c'est pas négligeable. Et d'une certaine manière, ça contribue à minima à la dégradation des forêts en zone tropicale, voire boréale.
Ouais, les déforestations indirectes en France. On parle de l'importance de la biodiversité pour les forêts. On peut aussi parler de la diversité des classes d'âge des arbres. Jonathan Lenoir, vous avez participé à une étude internationale dans laquelle vous avez vérifié si l'âge d'un arbre influence ses capacités de résistance et de résilience à un épisode de sécheresse.
Alors oui, en fait, on a parlé de résilience, mais le premier élément important, c'est au moment d'une perturbation comme la sécheresse, ça va être la résistance à la perturbation. Donc ici, à un événement climatique extrême comme une sécheresse. Cette résistance, en fait, elle peut être dépendante non seulement de la taille de l'arbre, comme beaucoup de travaux l'ont montré, mais aussi, en fait, de l'âge. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les individus, en tout cas les arbres adultes, qui forment la canopée haute, ce sont les plus âgés qui sont les plus résistants, et pas forcément les plus gros, parce qu'il n'y a pas forcément une relation aussi simple que ça entre âge et taille en diamètre, par exemple, de l'arbre. Et donc, c'est finalement les très vieux individus dans les parcelles qui résistent le mieux à l'épisode de sécheresse, mais à l'inverse, quand on revient à des conditions un peu plus normales et qu'on a cette résilience qui s'opère, c'est-à-dire le retour à une croissance normale après un épisode de sécheresse, eh bien c'est plutôt les jeunes arbres, les jeunes individus adultes qui forment aussi la canopée haute mais qui sont un peu plus jeunes et qui vont eux rattraper plus rapidement la croissance parce qu'ils ont accès plus rapidement à l'eau, tandis que les vieux arbres, eux, pendant cette période de sécheresse et pendant la sécheresse, du fait d'un enracinement plus profond, par exemple, ils peuvent accéder à des ressources en eau qui sont moins disponibles pour les plus jeunes. Et on en revient à cette fameuse transpiration dont je parlais tout à l'heure. Parce que si il n'y a plus accès à l'eau et que les arbres arrêtent de transpirer, ils arrêtent aussi la photosynthèse, ils arrêtent le stockage de CO2. Et donc, c'est important d'avoir cette diversité des classes d'âge pour qu'il y ait un relais aussi dans le stockage du dioxyde de carbone pendant ces périodes climatiques extrêmes comme les sécheresses. Parce que ce sont ces vieux individus plus résistants qui vont continuer à pomper un peu d'eau, continuer un petit peu à transpirer et protéger en fait le sous-étage en faisant un microclimat un peu plus frais. Et donc, il y a vraiment une compensation comme ça quand on équilibre les classes d'âge, puisqu'il y a un relais qui se fait entre les plus jeunes et les plus vieux.
Oui, c'est ça, c'est qu'avec un équilibre générationnel entre les arbres, la forêt est plus à même de surmonter un violent stress hydrique qu'une forêt très homogène en termes de classe d'âge, Jonathan Lenoir.
Oui, c'est ça, c'est en fait ce mélange des classes d'âge qui, on en a parlé tout à l'heure avec la complexité des systèmes et la résilience, elle est liée à cette complexité. Et en fait, la complexité, c'est pas seulement la diversité taxonomique, c'est-à-dire la diversité en nombre d'espèces, mais aussi c'est une diversité de classes d'âge, avec des individus et des tailles différentes, des âges différents. Et c'est parce qu'on a des hétérogénéités dans les classes d'âge au sein d'un peuplement qu'on apporte cette complexité en plus et qui fait que le système va être aussi plus résilient à un changement de l'environnement, parce qu'il y a forcément dans cette diversité de classes d'âge des individus qui seront plus résistants que les autres.
On peut tirer donc un enseignement de cette étude pour arrêter les parcelles homogènes en termes d'âge et d'espèces. Autre point, Laurent Augusto, l'hétérogénéité des espaces. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, parce qu'en fait, on parle de la forêt française, mais c'est assez fou. Il y a les forêts françaises. Hein. Il y a pas grand-chose à comparer, si ce n'est que ce sont des forêts entre les espaces méditerranéens, les grandes hêtraies de Normandie, les chênaies de la région centre, les hêtraies sapinières des Vosges. C'est pas juste une question de composition, savoir si c'est telle ou telle espèce. Elles sont pas soumises aux mêmes contraintes. On sait bien qu'en forêt méditerranéenne, c'est beaucoup les incendies. En Normandie, c'est plus peut-être les tempêtes. Et donc comme ça, comme les contraintes sont différentes et peut-être aussi les contextes socio-économiques régionaux, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc finalement, il n'y a pas vraiment à attendre de solution toute simple pour dire la sylviculture de demain, ce sera ça. Alors on peut essayer de trouver des grands principes, mais en tout cas, la sylviculture de demain, c'est une sylviculture sur mesure, où on va s'adapter à chaque terroir. Et même le forestier, il va déambuler dans ses parcelles pour regarder ce qu'il faut faire quasiment arbre par arbre. Donc c'est plus ça finalement la sylviculture commune à tout le monde, mais pour le reste, ça sera beaucoup de choix et d'adaptation au contexte local.
Jonathan Lenoir, toujours sur l'hétérogénéité des espaces, si on a un espace très homogène, on peut aussi dire le feu se propage très rapidement par exemple.
Ah oui, c'est en fait tout vient encore de la complexité des systèmes. Plus on a un écosystème complexe en diversité de classes d'âge, d'espèces, mais aussi en diversité de paysages et d'hétérogénéité dans le paysage, plus on aménage le territoire de manière hétérogène et plus on crée des discontinuités qui peuvent justement freiner des propagations, que ce soit des pathogènes, mais aussi par exemple un incendie. On l'a vu dans les Landes, les paysages sont très homogènes dans cette région de la France et en fait un départ de feu se propage très rapidement parce qu'il n'y a pas forcément de discontinuité. Et même le peu de discontinuité qui va y avoir dans le système, heureusement qu'elles sont là, mais c'est finalement assez rare dans certains contextes comme celui des Landes. Mais on a vu que, par exemple, dans les Landes, les zones où il y a quelques ripisylves avec justement des cordons d'espèces un peu plus feuillues et en mélange, ça crée une discontinuité dans la propagation du feu et ça ralentit finalement cette propagation. Donc c'est très important de réfléchir aussi en termes d'aménagement du territoire et de diversifier les usages et ne pas seulement avoir la même espèce partout et le même usage finalement partout dans le territoire.
Laurent Augusto.
Oui, alors cet exemple, il est vraiment, je l'aime beaucoup parce qu'il est très très illustrateur de la complexité auquel les gestionnaires sont confrontés, parce que justement le fait d'avoir dans les Landes, la forêt des Landes, des espaces ouverts entre les peuplements, ça avait été identifié par les spécialistes après les deux tempêtes, les deux grandes tempêtes de 1999 et 2009 comme un grand critère d'exposition du massif au coup de vent, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas un espace uniforme et bien homogène, en fait, le vent s'engouffre entre les parcelles et prenne de la vitesse. Et il y a comme ça des couloirs de vent. C'est comme ça qu'appellent ces phénomènes, c'est appelé par les spécialistes. Donc, la solution qui avait été proposée pour faire face aux prochaines grandes tempêtes, c'était d'homogénéiser. Et on voit que c'est contre-productif vis-à-vis des incendies. Et ça, c'est le cas de beaucoup de choses. C'est-à-dire que on trouve une solution à un problème, mais on est dans un phénomène de multirisque. Et la solution à un problème est le problème pour un autre problème. Et il y a d'autres cas comme ça.
Selon l'Office national des forêts, d'ici 50 ans, la moitié des espaces forestiers devraient changer de visage sous l'effet du dérèglement climatique. Julien Henoué, est-ce qu'on a une idée de ce visage futur? Est-ce que ça dépend du pessimisme ou de l'optimisme qu'on a vis-à-vis du changement climatique?
Je pense que c'est ça. Enfin, je pense que ça reste difficile de connaître ce paysage puisque ce paysage, il va dépendre en première instance des choix politiques qui vont être faits face au dérèglement climatique, aux politiques qui vont être mises en œuvre et aux luttes qui vont permettre aussi de faire pression sur les politiques qui seront peut-être mises en œuvre. Donc savoir si on va se situer sur une trajectoire de 1,5 degré, 2 degrés ou 4 degrés, ça dépend pas de la science en fait. Ça dépend de comment est-ce que on va trouver des alternatives aux énergies fossiles, mais aussi et surtout peut-être comment est-ce qu'on va réussir à diminuer les besoins. Et cette diminution des besoins énergétiques, si on prend le cas de la France, on connaît les principaux postes de consommation énergétique en France. 60% c'est le tertiaire et le résidentiel, donc ça veut dire clairement qu'il y a des économies d'énergie à faire sur le chauffage. Et ça, il s'agit pas de demander aux aux gens de mettre des pulls l'hiver, mais il y a de la rénovation thermique qui est possible de réaliser. Donc ensuite, la mise en œuvre de ce genre de mesures dépendra voilà, des rapports de force à l'œuvre, des politiques qui seront mises en œuvre. Et c'est la même chose pour la forêt. Pour la forêt, que sera la forêt de demain ? D'une certaine manière, ça va dépendre aussi de ce à quoi est-ce que l'on veut que la forêt serve. Est-ce qu'on veut que la forêt soit un réservoir de biodiversité, puisse constituer un espace aussi voilà, de récréation pour les population, enfin pour les citoyens qui pourraient voilà aller s'y promener, ou bien est-ce qu'on veut des forêts qui vont produire toujours plus de bois pour le bois énergie, le bois industrie, le bois d'œuvre, sachant que ces différents usages n'ont pas les mêmes effets sur le bilan carbone des forêts, puisque le bois d'œuvre va plutôt être pérenne, se stocker, tandis que le bois énergie, le bois industrie, ça a des durées de vie très limitées dans le temps. Donc ces choix qui vont être faits sur la gestion des forêts, ils seront décisifs dans les années à venir, et c'est ces choix qui permettront de dire quel sera le visage de la forêt dans 50 ans.
Jonathan Lenoir, dans un climat plus chaud et plus sec, la répartition des essences d'arbres sur le territoire va changer. Est-ce qu'on sait de quelle façon il va y avoir des essences qui vont régresser, d'autres à l'inverse qui devraient être avantagées ?
Alors oui, on observe déjà des changements dans la distribution de certaines espèces, mais malheureusement pas forcément sur la distribution des essences, c'est-à-dire les arbres et les arbustes qui sont longévifs. Parce que, bon, ça a été évoqué au début de l'émission, mais c'est vrai que le temps de la forêt, c'est le temps long. Ce sont des espèces très longévives qui nécessitent du temps aussi pour migrer, pour changer de distribution. Et donc, cette redistribution des espèces dans l'espace en lien avec le réchauffement climatique pour justement pouvoir suivre un petit peu la dynamique et la vitesse de réchauffement, on voit bien que pour les espèces les plus longévives et les espèces ligneuses notamment, cette vitesse du réchauffement est trop rapide pour que finalement les espèces puissent suivre par migration naturelle, en fait, ou par dispersion. Alors que pour des espèces un peu moins longévives, des espèces, par exemple, les plantes herbacées qu'on peut trouver dans les sous-bois, on observe déjà des migrations assez importantes, notamment en montagne, parce que, en fait, c'est plus facile en montagne pour une espèce de retrouver des températures favorables un peu plus en altitude. Il suffit de progresser finalement un peu moins loin en distance. Il n'y a pas besoin d'aller se disperser très loin pour retrouver des températures un peu plus fraîches plus haut en altitude. Tandis qu'en plaine, il faut parcourir tout de suite plusieurs kilomètres pour changer de température et trouver des températures plus fraîches, un peu plus au nord par exemple, dans nos latitudes tempérées. Donc c'est vraiment quelque chose qui pose beaucoup de questions sur la capacité des espèces forestières et des espèces ligneuses à durée de vie longue à s'adapter à ce changement qui est rapide.
Laurent Augusto.
Oui, alors ce que Jonathan explique, c'est très vrai. En fait, on est engagé, ou plutôt, pour l'instant, on assiste à une course de vitesse entre le réchauffement climatique. Donc, là, Julia disait, ça va dépendre de ce qu'on vise en termes de climat, plus 2, plus 4 degrés. Alors, pour se donner une idée, plus 2 degrés, c'est à peu près le climat de Barcelone ou de Rome qu'on ferait monter à Paris. Et plus 4 degrés, on descend en Sicile ou en Andalousie. Donc, on voit que c'est pas du tout le même climat. Donc, évidemment, les espèces qui sont actuellement dans nos régions, elles vont peut-être pas pouvoir facilement s'adapter à plus 2 et plus 4, c'est plutôt improbable. Donc, en fait, on a des espèces qui essayent, enfin, il n'y a pas d'anthropomorphisme à faire, mais enfin, les espèces migrent vers le nord, mais comme l'a dit Jonathan, il y en a qui vont doucement, parce que le principe, c'est je grandis, je fais une graine, la graine est dispersée un peu plus loin, va faire un autre individu qui va faire une graine, etc. Alors, pour des espèces comme le bouleau, qui fait des toutes petites graines qui sont emmenées par le vent, ça peut aller très vite. Pour le chêne, qui fait des glands lourds, qui sont juste dispersés par quelques animaux, mais pas très loin, ben, on estime que c'est en moyenne quelques centaines de mètres par an. Et quelques centaines de mètres par an, eh bien, ces espèces-là sont prises de vitesse par la progression du changement climatique.
Le scénario un peu catastrophe, comme vous l'évoquiez, c'est que la France devienne une zone entièrement méditerranéenne. Comment les faux... Face aux risques qui pèsent sur les forêts, notre gestion est-elle adaptée pour préparer la forêt aux risques environnementaux ? Quelles sont les solutions dont on dispose ? On en parle dans quelques instants. The Cure, A Forest, à 16h36 sur France Culture, car nous parlons de nos forêts de demain avec Julia Lenoé, biogéochimiste des écosystèmes terrestres, chargée de recherche à l'IRD, avec Laurent Augusto, directeur de recherche à l'INRAE, et Jonathan Lenoir, chercheur en écologie au CNRS. Nous avons défini ensemble ce qu'était une forêt résiliente, une forêt plus forte, plus capable de s'adapter aux perturbations climatiques à venir. Nous venons de voir également que la principale difficulté auxquelles nous devons faire face en termes d'adaptation des forêts, c'est ce temps très long des forêts en dichotomie avec l'urgence climatique. En France, l'Office national des forêts plante depuis quelques années dans nos forêts des parcelles baptisées îlots d'avenir. Ces parcelles sont des espaces d'expérimentation où l'on plante des essences d'arbres exotiques qui pourraient être adaptées au réchauffement climatique. Bonjour Antoine Beauchamp.
Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Pour le reportage du jour, vous êtes allé visiter l'un de ces îlots d'avenir.
Oui, je me suis rendu en forêt de Benne, dans les Yvelines, où j'ai rencontré Charles Cohen, qui est chef de projet boisement pour l'agence Île-de-France Ouest de l'ONF. Nous sommes allés tous les deux visiter l'un de ces îlots d'avenir, une parcelle de taille modeste où poussent depuis quelques mois des hêtres d'Orient, une essence d'arbre qui pourrait être mieux adapté au réchauffement climatique et au manque d'eau que les hêtres que l'on trouve actuellement dans les forêts d'Île-de-France. Charles Cohen m'a expliqué comment se réalisait le suivi de ces arbres, en partenariat notamment avec des chercheurs de l'INRAE, et quelles pourraient être les perspectives ouvertes par ces îlots d'avenir si l'expérience venait à être concluante.
Ici, donc, on se retrouve sur une parcelle de 1 hectare exactement, qui donc a été clôturée. Parce que, bon, de 1, on est dans un dispositif d'expérimentation avec une essence exotique, donc on veut limiter et vraiment montrer cette barrière entre la forêt normale presque et ce dispositif d'expérimentation. On l'a aussi clôturé parce que ici, rien n'est protégé. Et donc, en fait, c'est plus facile de clôturer. Et là, on n'a pas besoin de protéger individuellement, donc on se retrouve avec donc cette étendue de 1 hectare qui préalablement avait été donc coupée à ras, broyée, sous-solée. Donc ça, ce sont des lignes avec une pelle pour aérer un peu le sol pour garantir une meilleure reprise. Maintenant, on se retrouve juste à côté de ce petit plan qui a bien repris. Hein, et voilà, c'est un hêtre d'Orient. Le voilà. Comparé à notre hêtre commun qu'on retrouve beaucoup dans nos forêts françaises, et d'ailleurs qui va pas très bien parce qu'avec tous ces déficits hydriques, avec toutes ces sécheresses, bah le hêtre il aime l'eau et il est pas habitué à pas avoir beaucoup d'eau. Et donc là tout d'un coup on voit beaucoup de nos hêtres dépérir en France. On ne peut plus compter naturellement sur une régénération de hêtres communs. Par contre, on a son cousin, le hêtre d'Orient, donc voilà, qui nous vient du Caucase et du nord de l'Iran, et qui lui, en fait, si on regarde les estimations et les projections du climat en 2070, eh ben, tout d'un coup, lui, il serait plutôt prometteur. Il a besoin de moins d'eau, et donc naturellement, dans sa génétique, il est plus habitué au climat de demain. Aujourd'hui, on est déjà au mois de juin. Je le vois, il a quand même bien ses feuilles, il va bien. J'espère qu'il va résister à cet été, et j'espère qu'il va quand même un petit peu pleuvoir quand même. Sur un hectare, on plante souvent 1650 plants à l'hectare. Ça, ce sont des schémas un peu de sylviculture, de plantation, surtout dans la chênaie, mais dans la hêtraie aussi. Au niveau de cette densité, ça permettra... Là, tout a été broyé, donc les arbres, là, ils sont en train de pousser tranquillement. Ils n'ont pas de concurrence encore, mais on voit que peu à peu, bah, le sous-étage, il va commencer à arriver. Ça va être dans 2 ans, je pense, qu'on viendra faire un premier dégagement pour leur permettre de continuer à pousser. Et puis après, voilà, ils sont à peu près à 2 pas d'écart, 2 mètres. Et donc ça leur permettra de, quand ils commencent à grandir, comparé à l'image de l'arbre de champ dans la campagne qui tout de suite pousse et va pousser en cherchant la lumière sur les côtés, là on aura un peu cet effet de gainage où on va les encourager à pousser vers le haut avec leur croissance apicale pour avoir tout de suite une ambiance forestière et pourquoi pas un bois de qualité.
Là, on est donc sur des hêtres d'Orient qui sont très jeunes, qui vont être soumis à l'épreuve de l'été qui s'annonce déjà caniculaire.
Il y a un autre paramètre, c'est l'hiver. Est-ce que ces essences-là sont adaptées à des grands froids, à des potentielles gelées fortes, qu'elles soient hivernales ou à la fin de l'hiver, au printemps, comme on peut en connaître ?
Tout à fait. Ces essences ont été vraiment choisies particulièrement parce qu'elles vont être adaptées pas non plus aux étés chauds, mais aussi aux hivers qui vont continuer à être rudes, aux tempêtes. Et quand on regarde les projections, dans son aire natif, l'être d'Orient, il connaît des gels tardifs. Il peut monter en altitude à 1000 mètres d'altitude, il me semble. Et donc, il est adapté au froid comme aux chaleurs. La question, c'était vraiment une question de déficit en eau. Est-ce qu'il va réussir à continuer à grandir, et même pas à grandir, mais on tente ces essences pour une essence potentiellement de production, pour une essence qui, dans 20 ans, pourrait déjà atteindre une quinzaine de mètres et qui pourrait monter à 25-35 mètres dans des bonnes conditions. Alors après, été numéro 1, ça fait 3 mois qu'ils sont dans le sol, ce n'est que le début et ce n'est qu'une...
Une expérimentation.
Une expérimentation, exactement. Et...
Il y a beaucoup d'îlots d'avenir comme celui-ci dans les forêts françaises. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de parcelles qui ont pu être plantées comme ça avec des essences ? Alors on parlait du hêtre d'Orient, quelles sont les autres espèces envisagées ?
Je sais qu'au niveau de notre agence en Île-de-France-Ouest, on vient de commencer cette année, c'était la première saison où on a déployé donc ces plantations et on en a déployé 3. Elles font toutes donc 1 hectare. Et en général, un îlot d'avenir va faire entre 0,5 et 5 hectares maximum. Hein. Et 5 hectares, en tous les cas, pas ici. On va peut-être essayer de faire 2 hectares parce que ça nous permettra d'avoir moins d'effets de lisière et de vraiment voir comment le peuplement évoluera sur le long terme. Par contre, ce qui est important à noter, c'est que sur, par exemple, la totalité d'une campagne de plantation, par exemple, cette année en Île-de-France Ouest, on a planté 100 hectares, 110 pour être exact. Les îlots d'avenir, c'était 3 hectares. Donc c'est un petit pourcentage. C'est pas là où on investit le plus de temps et le plus de surface. Surtout que voilà, on essaye de faire 2 à 3 hectares, 2 à 3 plantations par an, et ça serait déjà pas mal.
Ça reste, oui, un espace d'expérimentation. C'est une sorte de petit laboratoire à ciel ouvert.
C'est ça.
Pour estimer les essences qui pourraient être les plus adaptées à ce réchauffement climatique.
Exactement. Et après, en type d'essence dont on a la liste en fait qui a été donnée, on a donc le sapin de Bormulaire qui lui sera peut-être plus adapté dans des sols un peu plus sableux. On a le calocèdre qui nous vient d'Amérique du Nord, qu'on a d'ailleurs planté dans un îlot d'avenir dans la forêt domaniale de Rambouillet. Et puis après, voilà, on a des chênes du Caucase, le hêtre d'Orient, le platane d'Orient, on a l'aulne de Corse, une bonne diversité d'essences qui vont marcher sur différents sols. Voilà, si ça fonctionne et qu'on a des résultats prometteurs sur les 3, 4, 5 premières années, on continuera. Après, ces îlots d'avenir, ça fait partie donc d'un dispositif de recherche au sein de l'ONF du département RDI, mais au sein des chercheurs de l'INRA aussi, qui eux vont venir sur place. En plus de nous, les techniciens qui faisons un peu notre suivi l'année d'après et 5 ans plus tard, etc., eux, ils ont la possibilité de venir et de regarder aussi comment vont les plants dans un cadre un peu plus de recherche.
Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. Jonathan Lenoir, quelle est votre expertise, votre regard sur ces îlots d'avenir ?
Ce sont des expérimentations intéressantes et importantes pour voir effectivement quelle sera la capacité de ces essences exotiques qui viennent parfois de très loin à finalement s'adapter à notre climat. Mais voilà, il faut aussi garder en tête que ces essences exotiques peuvent aussi être finalement peuvent entraîner certains problèmes. On a plein d'exemples d'essences ou d'espèces exotiques qui deviennent parfois envahissantes et qui sont problématiques. Hein. Il y a des exemples d'espèces exotiques qui ont été introduites dès les échanges commerciaux qu'il y a eu au tout début de l'époque coloniale européenne, où on a rapporté des essences qui viennent des Amériques. Si on prend par exemple le cas du cerisier tardif, qui est un cerisier venu d'Amérique du Nord et qu'on a introduit en France, et notamment par exemple en forêt de Compiègne, il est très présent et il est très très problématique. Il supplante par endroits les espèces indigènes comme le hêtre, et il est très très c'est très difficile de s'en débarrasser. Laurent, et il conduit pas forcément à des individus qui sont intéressants aussi d'un point de vue commercial. Donc il faut il faut vraiment faire attention aussi à la manière dont on gère ces essences qui viennent parfois de très loin.
Laurent Augusto, vous aussi, votre regard et une réaction au reportage qu'on vient d'entendre.
Oui, je vais aller dans le sens de Jonathan. C'est-à-dire que ce sont des expérimentations qui sont très utiles parce qu'on voit qu'on a quand même besoin d'explorer le possible. Mais comme ça a été évoqué, faire venir une espèce de très loin, en fait, il y a deux échecs possibles. Hein, c'est que ça marche pas du tout et que l'espèce se plaise pas, elle meurt. Bon, finalement, ça, c'est pas le plus gros problème. Effectivement, elle peut devenir invasive. Donc, on a parlé du cerisier tardif, mais il y en a plein d'autres. Hein, les landes du Japon est un autre exemple très, très, très réel. Après, alors justement, il y a exotique et exotique. C'est-à-dire que là, on parle d'espèces qui viennent de très très loin. Donc, quand elles arrivent dans ce milieu qui est le milieu est naïf par rapport à cette espèce, elle peut devenir invasive. Et quelque part, peut-être qu'on a des exotiques un peu moins exotiques qui viendraient, par exemple, du sud de l'Europe. Et là, on est ce qu'on appelle dans la même ère biogéographique. C'est-à-dire que même si c'est pas le même pays, la France, l'Espagne, quand même, naturellement, on est relié. Et donc, si on va piocher des espèces, par exemple, en Espagne, le risque d'invasion est plus limité. Alors, il n'est pas complètement nul, hein, on peut avoir de mauvaises surprises, mais il est plus limité. Bon, en tout cas, voilà, moi, je vais dans le même sens. Ce sont des expériences utiles, intéressantes. On a besoin de les faire pour pas avancer à l'aveugle, mais il faut y aller avec précaution.
Julia Lenoé.
Oui, je vais poursuivre avec la prudence. Je pense effectivement que comprendre les espèces, les processus biologiques en fonction des espèces qui seraient plus adaptées au changement climatique, évidemment, c'est important et c'est intéressant. En fait, ça nous informe pas forcément de tous les risques, et en particulier, on peut comprendre ce qui se passe à l'échelle de la parcelle sans comprendre ce qui va se passer à l'échelle du territoire. Et donc, c'est important de aussi situer les forêts dans des dynamiques territoriales et avec ce type d'approche, d'essayer au moins d'estimer, alors même si c'est des estimations incertaines, d'estimer à l'échelle du territoire quels vont être les effets de ces changements d'espèces sur la possibilité d'approvisionnement en bois, la possibilité de stockage du carbone dans les sols et la biomasse, et de voir en fait si avec ces adaptations, on va quand même continuer à perdre beaucoup de carbone ou pas, ou au contraire, est-ce qu'on va plutôt en stocker, et comment est-ce que ces nouvelles espèces sont susceptibles de répondre aux besoins en bois de la société. Évidemment, ces besoins ne sont pas figés, ils sont amenés également à évoluer, également à être reconfigurés, mais seule une perspective territoriale peut permettre de répondre à ce type de questions.
On arrive à la fin de cette émission. Jonathan Lenoir, dans cette situation de conditions climatiques changeantes et incertaines, quel type de forêt devons-nous favoriser ?
Déjà, effectivement, ça a été évoqué sur les essences qu'on fait migrer par migration un peu assistée. C'est un petit peu le terme qu'on utilise. On n'est pas obligé de les faire venir de très loin, en fait. Parfois, même au sein même de notre territoire, on a des espèces ou des populations génétiques qui peuvent être plus adaptées et qui peuvent peut-être finalement aussi répondre, en tout cas en termes de capacité d'adaptation, à ce changement. Donc voilà, il ne faut pas, des fois, trop précipiter les choses non plus, parce que à vouloir changer trop rapidement et plus rapidement que la vitesse du changement, on peut aussi accélérer ce changement, en fait. Et c'est pas forcément quelque chose qui peut aboutir à... En tout cas, ça peut être assez risqué de vouloir aller beaucoup plus vite, et mieux vaut accompagner le changement aussi sur des dynamiques naturelles, en favorisant notamment les continuités écologiques. Il y a aussi énormément d'efforts à faire sur nos capacités à reconstruire une connectivité, de reconnecter les habitats forestiers, par exemple, dans les espaces notamment de plaine. Si en montagne, c'est un peu moins le cas, en plaine, c'est assez important comme facteur, cette fragmentation de l'habitat. Et il est important aussi de reconnecter et de favoriser ces trames qu'on appelle aussi la trame verte et bleue, en fait, qui permet finalement aux espèces et à la biodiversité de pouvoir circuler dans un environnement qui est de plus en plus fragmenté, en fait.
Laurent Augusto, ce qu'on a déjà un peu aussi évoqué durant cette émission, c'est que la culture mono-espèce est à bannir afin de favoriser une plus grande diversité et donc une meilleure résilience pour l'avenir.
Oui, alors C'est Julia qui lui disait, c'est en fait qu'attend la société des forêts. Est-ce qu'on veut que ce soit des espaces qui produisent beaucoup de bois pour nos usages, ou est-ce qu'on veut favoriser finalement tout ce qu'on appelle les services écosystémiques? Là, on peut dire que en France, il y a encore un débat assez vif sur est-ce qu'on doit spécialiser les forêts, c'est-à-dire est-ce qu'on doit avoir dans un coin des forêts à qui on demande de faire beaucoup de bois et dans l'autre on va pas les toucher, ça va plus être pour les services, ou est-ce que toutes les forêts doivent rendre un petit peu tous les services. C'est un débat qui est finalement assez vieux, hein, il a changé de nom au cours du temps, et qui est toujours pas clos. C'est une bonne entame pour avoir une discussion animée avec des forestiers, en tout cas.
Julia Lenoé.
Je vais aussi dans ce sens, je suis d'accord, effectivement il y a un débat, peut-être on peut donner les termes actuels, hein, on appelle ça land sparing ou land sharing, donc land sparing, et en fait ce qui est intéressant c'est quand même dans ce débat, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait des forêts qui est en jeu, mais ça convie aussi une vision de l'environnement et des interactions société-environnement. Du côté du land sparing, on a un peu la vision d'espace qui serait entièrement anthropisé, et qui devraient être les plus petits possibles, et de l'autre des espaces qui seraient entièrement naturels, et qui seraient là dédiés à la préservation de la biodiversité, des fonctions écosystémiques, etc. En fait, cette vision land sparing, elle convie quand même une vision de la nature dans laquelle la société est séparée de la nature et où la nature est un réservoir dans lequel on va venir puiser. À l'inverse, la vision land sharing, elle convie plutôt une vision de la nature en fait comme totalité dans laquelle sont inclus les sociétés. Les sociétés sont une partie de la nature avec laquelle elles sont en interaction, et dans cette vision land sharing, on va plutôt avoir, voilà, comme disait Laurent, effectivement, une vision dans laquelle, il devrait y avoir un peu partout un certain nombre de fonctionnements des écosystèmes de services écosystémiques qui sont à l'œuvre et qui sont liés partout à la manière dont la société interagit avec cet environnement.
Bien, merci à vous trois pour cet entretien. Merci de nous avoir fait comprendre qu'il nous faut une sylviculture cous humain, pour reprendre vos mots. Il est temps à présent de retrouver Étienne Klein et sa chronique, le pourquoi du comment.
Peut-on ne pas croire ce qu'on découvre ? Il arrive qu'un chercheur comprenne des choses auxquelles pourtant il n'arrive pas à croire, comme si sa raison ne parvenait pas à approuver un résultat pourtant découvert par son propre intellect. L'exemple le plus connu est celui de Georges Cantor. Au XIXe siècle, ce mathématicien entreprit de clarifier la notion d'infini, qui jusqu'alors n'apparaissait en mathématiques que sous forme négative, dans le sens de non-fini. Au cours de ses recherches, il en vint à se poser la question de savoir s'il est vraiment vrai qu'il y a plus de points dans un carré de côté L que sur un segment de longueur L. La réponse qui s'imposa à lui est qu'il y a exactement autant de points sur le segment que dans le carré, alors même que le premier, de dimension 1, est contenu dans le second, de dimension 2. Cantor fut littéralement effrayé par cette découverte que son intuition rejetait, mais que son intelligence devait admettre dès lors qu'il avait découvert une preuve mathématique de son exactitude. Il rendit compte de son désarroi par ces simples mots « Je le vois, mais je ne le crois pas ». Le même type d'aventure est arrivé en 1900 au physicien Max Planck, qui s'intéressait au problème dit du corps noir, dont il voulait comprendre la structure du spectre lumineux. En novembre, il élabora grâce à un raisonnement original une formule qui se trouva être en parfait accord avec les mesures expérimentales. Mais dans les semaines qui suivirent, il se rendit compte qu'il ne parvenait pas à l'interpréter correctement. Il se tourna alors, juste pour voir, vers la conception probabiliste de l'entropie, qui lui faisait intellectuellement horreur. Son intuition était qu'après tout, cela pourrait donner un résultat intéressant. C'est donc par un acte de désespoir, car dira-t-il ailleurs, je m'étais éloigné de la nature en toute conscience, qu'il joua avec cette idée, alors qu'au fond de lui-même, il demeurait persuadé que l'entropie était une grandeur absolue, donc que son fondement ne saurait être probabiliste. Mais grâce à ce détour fort douloureux pour son psychisme, il put réaliser que tout se passait comme si les échanges d'énergie entre la lumière et la matière étaient quantifiés. Ils s'effectuent par paquets, autrement dit par quanta. Une lumière de fréquence donnée n'échange de l'énergie qu'en payant avec des pièces de monnaie, qui sont des multiples entiers d'une quantité fondamentale, d'autant plus grande que la fréquence est plus élevée. Si Max Planck éprouvait pour cette idée une si vive répugnance, c'est parce qu'elle contredisait des principes qui faisaient autorité, ceux de la théorie électromagnétique de la lumière, selon lesquels les échanges d'énergie entre la lumière et la matière peuvent se réaliser en n'importe quelle quantité. Aussi s'entêta-t-il à n'y voir qu'un simple truc, le fruit d'une conjecture heureuse, comme il dira, et non une vérité physique, comme si un hasard malicieux avait conduit ses calculs jusqu'à un résultat contraire à ses convictions. C'est donc presque la mort dans l'âme que, le 14 décembre 1900, il lut devant l'Académie des sciences de Berlin un mémoire présentant ses conclusions. En 1905, Einstein fut le premier à les prendre au sérieux et même à les pousser à l'extrême. Si les échanges d'énergie entre la lumière et la matière sont quantifiés, c'est tout simplement parce que la lumière elle-même est constituée de quantas d'énergie qui seront plus tard baptisés photons. Ainsi naquit ce qui allait devenir la physique quantique. Mais Max Planck persista à résister. En 1913, dans une lettre où il proposait qu'Einstein fût élu à l'Académie des sciences de Prusse, il se montra toujours aussi rétif au quanta qui était pourtant sorti de son propre crâne. Il écrit « Au total, on peut dire que parmi les grands problèmes si nombreux en physique, on en trouverait difficilement un seul auquel Einstein n'eût pas apporté une contribution remarquable. Qu'il ait pu parfois manquer son but dans ses spéculations, comme dans sa théorie des quantas lumineux, on ne saurait vraiment le lui reprocher. Dans la plus précise des sciences de la nature, en effet, toute innovation comporte un risque. » Fin de citation. C'est toute l'ironie de la trajectoire des idées. Leur source désapprouve parfois l'itinéraire du fleuve qu'elles inventent.
Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute. Merci à toute l'équipe. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Nafi Terrasse, Garance Prima, Agnolo. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Antoine Troupé. Et merci aux camarades de France Bleu Picardie. Cette émission, ce podcast à toute heure sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.